Mes chers amis, vous m'avez souvent entendu à ce micro parler de l'unité des croyants. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un sujet à la mode. Il préoccupe beaucoup de monde. Aussi en parlerai-je encore aujourd'hui, sur un ton cependant un peu plus critique que d'habitude. Paradoxalement, parler de l'unité des croyants, c'est jeter plein feu sur leur division. C'est ici que je voudrais mentionner la question impatiente, mais légitime, d'un de nos auditeurs. Pourquoi sommes-nous divisés? N'avons-nous pas tous le même Dieu? Aux yeux de cet homme, la division qui défigure notre christianisme est une anomalie inexplicable, puisque nous avons tous le même Dieu. Cette dernière affirmation ne correspond cependant pas à la réalité. Nous sommes sans doute tous des créatures de Dieu, mais nous n'avons pas tous le même Dieu. J'entends cela dans ce sens qu'avoir le même Dieu, c'est respecter les mêmes lois et rendre un même culte selon la volonté précise de ce Dieu. Or, nous avons aujourd'hui une telle diversité de doctrines, de préceptes, de pratiques et de dogmes, non seulement différents les uns des autres, mais souvent contradictoires, qu'ils ne peuvent pas être tous issus du même Dieu, c'est-à-dire de la même autorité. Nous sommes ici au fond du problème, car l'unité religieuse dépend essentiellement du choix de l'autorité suprême et du respect de ses directives. Or, il ne peut y avoir que deux sortes d'autorité, celle de Dieu ou celle des hommes. Il n'y a pas de conciliation possible entre ces deux formes d'autorité, c'est l'une ou l'autre. Jésus a déjà fait sentir ce terrible conflit entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient des hommes, dans sa question aux Juifs impatients de le perdre. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Les Juifs savaient très bien que s'il était de Dieu, ils auraient dû l'accepter, et ils l'avaient précisément rejeté comme venant des hommes. Voilà la raison fondamentale de l'émiettement religieux de notre temps, à savoir le conflit entre commandement de Dieu et commandement de l'homme. Et tout cela avait déjà été annoncé par le Christ et par ses apôtres. Examinons quelques-unes de leurs prédictions. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous avez reconnu un texte de l'évangile de Matthieu, dans les Béatitudes. Cette recommandation et cette mise en garde du Christ trouvent son écho dans les enseignements des apôtres. Paul, par exemple, dans une entrevue poignante d'émotion avec les anciens de l'église d'Éphèse, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. » Dans la lettre aux Romains, il écrit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » Dans une autre lettre adressée aux Colossiens, il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur le Christ. » C'est particulièrement son jeune disciple, Timothée, qu'il met en garde contre les fausses doctrines. Il lui révèle, selon l'esprit d'inspiration divine qui est en lui, que dans les derniers temps, ce sont là ses propres mots, « dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs. » Dans le contexte de cette même lettre, il condamne expressément ceux qui enseignent de fausses doctrines, reconnaissables en ce qu'ils ne s'attachent pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est conforme à la piété. Il termine sa lettre par cette touchante et fervente recommandation. « Ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns, qui se sont ainsi détournés de la foi. » Il y a encore de nombreux textes dans toutes les épîtres que contient le Nouveau Testament qui mettent en garde contre le danger de se laisser entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Ils nous permettent de faire trois remarques importantes. Premièrement, la division dont souffre le christianisme aujourd'hui est un mal que l'Écriture avait déjà prévu. Il ne faut donc pas s'en étonner outre mesure. Deuxièmement, que l'Église chrétienne du 1er siècle en souffrait déjà. Troisièmement, que le symptôme principal annonciateur de ce mal est un écart de la parole annoncée. L'enseignement des apôtres était la norme, le critère, la règle par laquelle tout était mesuré, évalué et contrôlé. Comme nous l'indiquent les membres de phrases suivantes que vous reconnaîtrez au passage. Dans la lettre aux Romains, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, l'épître aux Corinthiens, un autre Jésus que celui que nous avons prêché. L'épître aux Galates, un autre évangile que celui que nous vous avons prêché. La première épître aux Corinthiens, vous êtes sauvés si vous retenez l'évangile tel que je vous l'ai annoncé. Épître à Timothée, si quelqu'un ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. La démonstration est claire. Toute doctrine est mesurée par la règle suprême, à savoir la parole de Dieu, dont les apôtres étaient les proclamateurs. À ceux qui mettaient en doute cette prérogative des apôtres, Paul disait « Nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Il y a plusieurs moyens de falsifier la parole de Dieu. Nous en mentionnerons quelques-uns. Nous avons dit tout à l'heure que la division religieuse résulte d'un conflit entre la parole de Dieu et la parole des hommes. Rares sont les sectes qui s'écartent totalement de la parole de Dieu. Presque toutes les fausses doctrines sont peu reconnaissables parce qu'elles semblent côtoyer très intimement les Écritures. Avec ce paravent, elles ont une apparence de vérité, de sorte qu'il est difficile de s'y reconnaître dans un amalgame de doctrines humaines et de préceptes divins. Ainsi, on peut falsifier la parole de Dieu de plusieurs façons. On peut retrancher ou passer sous silence certaines doctrines ou pratiques que l'on juge peu pratiques. On peut changer ou transformer certains commandements en leur donnant une interprétation tendancieuse. On peut étirer certains textes et leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. On peut hypertrophier certains textes en les retirant de leur contexte pour leur donner une nuance différente ou pour forger une doctrine particulière qui deviendra le cheval de bataille d'une secte. On peut aussi, ce qui semble avoir été une pratique courante, très acceptée, on peut aussi lui juxtaposer certains commandements d'hommes à résonance biblique en leur donnant autant d'autorité que les commandements de Dieu. C'est le rôle des traditions. Toutes ces déviations sont groupées dans la même condamnation, dans le même jugement. L'apôtre Jean déclare à cet effet, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. » Le ton est sévère et pour cause. La légèreté avec laquelle est traitée la parole de Dieu est parfaitement illustré dans l'attitude des pharisiens et des scribes contemporains du Christ. Au lieu de respecter scrupuleusement les directives de la loi de Moïse, ils s'en étaient servis pour élaborer eux-mêmes tout un système de lois qui avait à leurs yeux autant d'autorité, c'est-à-dire plus, que la loi de Dieu. Jésus démasque publiquement la manière subtile dont ils avaient changé les commandements de Dieu. La forme et la résonance originelles étaient toujours là, mais quelques détails avaient changé. Jésus leur dit « Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Nous retrouvons ici encore ce conflit entre commandement de Dieu et commandement d'hommes. Aujourd'hui, la situation n'a guère changé, de telle sorte que Jésus peut encore prononcer le même jugement. Lorsque Jésus prêchait, l'Évangile était une voix, une personnalité. C'était lui. Aujourd'hui, l'Évangile est devenu un livre qui contient les enseignements du Christ et de ses apôtres. Oh, bien sûr, tout ce qu'ils ont dit et tout ce qu'ils ont fait ne s'y trouve pas consigné. Ce n'était ni possible ni nécessaire. Mais il nous assure que ce qui est écrit est suffisant pour amener l'homme à la connaissance de Dieu et de son salut. Les Écritures ont toujours proposé aux hommes une base pour s'unir. « Je vous exhorte à conserver l'unité dans la paix », implore l'apôtre Paul. Il déclare qu'il y a un seul corps, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un chef suprême à l'Église. Qu'avons-nous fait de cette proposition ? Il y a un seul Seigneur. La Bible le nomme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous avons dit d'accord. Mais un seul roi, ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin d'une reine. Nous la mettrons aux cieux et elle régnera avec lui. Le résultat tragique, c'est que le Seigneur des seigneurs a disparu de l'horizon de nombreux croyants. Ils ne voient plus que cette autre divinité qu'on leur a imposée et qu'ils ont adoptée. Il y a un seul baptême. Nous savons que le baptême chez les apôtres n'était pas autre chose qu'une immersion dans l'eau et que seuls les adultes y étaient admis, car c'était un acte d'engagement, une expression de la conversion qui nécessitait raison et lucidité. Qu'avons-nous fait de ce seul baptême ? Nous l'avons transformé en aspersion. Nous l'administrons à des nouveau-nés. Ce n'est plus un engagement de l'individu, c'est un rite à caractère quasi magique. Nous ne l'avons pas rejeté, nous l'avons seulement un peu changé. Mais nous savons qu'aux yeux de Dieu, c'est la même chose. Il y a un seul médiateur, affirme l'apôtre. Loin de nous l'idée de le rejeter. Mais il nous en a fallu d'autres. Nous avons même imaginé des milliers d'intermédiaires qui pouvaient prier pour nous et intercéder en notre faveur auprès de Dieu. Nous leur avons même donné des spécialités pour que chaque prière soit adressée à qui de droit, selon les besoins. Qu'importe si cette forme de la piété est étrangère à la Bible, elle est pleinement adoptée par la masse qui s'en trouve bien et qui ne pose jamais de questions. Il y a un chef suprême à l'Église qui est le Christ. Mais nous n'avons pas été satisfaits d'un chef invisible, pourtant généreusement présent dans sa parole. Alors nous nous sommes donné des chefs visibles, et nous leur avons accordé le pouvoir de faire des lois et d'interpréter pour nous la volonté de Dieu. Qu'importe si tout cela est étranger à l'Église du premier siècle, l'important c'est que ça marche bien. Voilà notre critère. La fin justifie les moyens. Apparemment, rien n'est changé. En réalité, tout est changé. Il y a une seule foi. Mais notre foi repose autant sur les commandements de Dieu que sur la tradition des hommes. À un tel point que certains d'entre nous sont incapables de les différencier. Et nous connaissons le jugement de Dieu à cet égard. Vous voyez que cette étude devait nécessairement avoir un caractère critique. J'espère que vous le trouverez légitime et justifiable. Pour terminer, je répéterai ce que j'ai déjà dit maintes fois. L'unité religieuse n'est pas une coexistence pacifique entre diverses sectes professant des doctrines diverses et contradictoires. L'unité religieuse dépend du choix, par tous les croyants, d'une seule et même autorité en matière de religion. Et cette autorité doit être nécessairement et exclusivement la parole de Dieu, telle qu'elle se fait entendre dans la Bible. Lorsque les hommes cesseront de brandir leurs opinions, d'invoquer leurs traditions et de s'appuyer sur leur credo, lorsqu'ils cesseront de confondre tout cela avec la parole de Dieu, lorsqu'ils reviendront consciemment à la Bible comme à la seule règle de foi et de pratique, comme au seul critère pour juger du vrai et du faux, lorsqu'ils décideront de parler avec la Bible comme la Bible et de se contenter de ce qu'elle nous révèle, alors seulement ils retrouveront cette seule foi, ce seul baptême, ce seul médiateur, ce seul Seigneur, ce seul chef dont ont tant parlé les apôtres. Alors seulement l'unité des croyants sortira du domaine de l'utopie pour devenir réalité. Nous ne disons pas qu'il n'y aura plus de division, ce ne serait pas réaliste. Tant que le malin subsistera, il divisera les hommes. Mais nous pouvons affirmer qu'il y en aura considérablement moins. Sur cette base exclusivement biblique, tous les croyants honnêtes et sincères divisés aujourd'hui ne seront plus séparés. En matière de foi, ce sera l'unité. En matière d'opinion, la liberté. Et en toute chose, la charité, que la Bible appelle le lien de la perfection.